Vous parlez, prenez d'abord le. Ah ben vous l'avez le verre là-dessus. Bien, alors, pour ne pas perdre de temps, je vais traduire moi-même. Et puis, vous notez bien la manière dont je traduirai. Et si vous avez une question sur la traduction elle-même, interrogez-moi tout de suite, parce que tout ce problème que nous allons étudier, c'est une controverse sur deux nuances d'un même mot. Le mot de tzedaka, en hébreu, a beaucoup de sens, et je vais vous les énumérer. Et Rashi et Ramban, sur ce verset, ça va s'éclairer tout de suite, semblent, en tout cas apparemment, utiliser une nuance de sens différente du même mot. Le mot se trouve dans le verset. Alors d'abord la traduction du verset, c'est, je me souviens bien, chapitre 15, verset 6. Vous avez le verset sous les yeux. Hein. Alors le verset dit, Vehemin Bashem, le sujet du verbe Vehemin, c'est évidemment Abraham. Ça signifie, et Abraham eut foi, eut confiance, crut, mais d'après ce que nous avons étudié hier, il vaut mieux éviter d'employer le terme de croyance pour traduire Emouna, parce que croyance, c'est un comportement intellectuel, tandis que Emouna, c'est une adhésion morale. Il y a un comportement de certitude dans la Emouna, mais c'est plus de l'ordre de la vertu que du raisonnement. Est-ce que c'est bien clair ce que je dis là ? L'attitude qui consiste à faire confiance, c'est une vertu qui est très proche de la vertu d'humilité, mais de reconnaître que quelque chose est vrai de par l'autorité de quelqu'un d'autre que moi-même. Tandis que le mot de parallèle, le mot de émet, c'est reconnaître que quelque chose est vrai, mais je le reconnais par moi-même. Tandis que dans Emouna, j'adhère à la vérité que quelqu'un, dont quelqu'un d'autre a l'épreuve. Est-ce que c'est bien clair ? Ceci pour vous faire comprendre que c'est beaucoup plus de l'ordre de la vertu que de l'ordre de la pensée, de l'intellect. Et ça, c'est une des difficultés qui vient de ce que nous réfléchissons en français. En français, le terme de croyance a fini par prendre un sens intellectuel. Au point que finalement, on croit que le problème de la foi porte sur l'existence ou la non-existence de Dieu, alors qu'il n'en est rien du tout. C'est une attitude de confiance dans une promesse qui a été faite par Dieu. Et pourquoi il y a un problème ? C'est parce que bien que ce soit Dieu qui ait fait la promesse, apparemment ça ne s'accomplit pas. En tout cas, ça ne s'accomplit qu'en fin de compte. Vous avez bien compris le problème. Okay ? Et l'ancien français avait un mot qui était beaucoup plus exact, le mot de créance, qui a pris dans le français moderne un sens bancaire, une créance, okay, mais ça avait le sens de croyance, mais dans le sens de cette adhésion de la foi, la créance, faire créance à quelqu'un. Mais maintenant, on ne parle plus l'ancien français, d'ailleurs j'espère que bientôt, même le français moderne, vous n'aurez pas l'occasion de le parler souvent, mais ce serait très dommage de l'oublier, parce que la culture française est une très belle culture, et ce n'est pas une raison, parce que vous allez redevenir hébreu, d'oublier la culture française. Mais en attendant, désintoxiquez-vous. En tout cas, pour revenir au sujet, Vehemin Bashem, que Abraham a cru, a fait foi, a fait confiance en Hachem, là, il n'y a pas de controverse possible, le sujet du verbe, c'est Abraham. C'est clair ? Donc, Bayarche Vehalo Tzedaka. Alors, je traduis littéralement, et il le compta, il compta cela quoi, c'est au féminin, donc cette émouna, et il compta cette confiance, l'eau pour lui, tzedaka, comme, dans le sens de imputer, comme tzedaka. Alors tzedaka, le premier sens du verset, c'est justice. Mais c'est dans le sens de justification, un mérite de justice, ce qui donne la justification de quelque chose. Le mot hébreu qui signifie justification, c'est hasdaka. Hasdaka, la même racine avec les devant. Hasdaka. Mais ici, tzedaka, tel que ça va être utilisé par les commentateurs, a un peu le sens de hasdaka dans le premier sens. Justice dans le sens de justification. Si je peux me justifier d'une conduite, j'en acquiers le mérite. D'où, deuxième sens, mérite. Mais il y a un troisième sens qui est charité. Faites bien attention. Le terme central en hébreu pour dire charité, c'est pas tzedaka, c'est chesed. Chesed, c'est la charité gratuite. Tzedaka, c'est la charité qui est justice. C'est-à-dire, ce n'est que justice de faire cette charité. C'est une charité que l'on fait. Mais on a obligation de la faire d'une certaine manière. Par exemple, si quelqu'un est riche et quelqu'un est pauvre, la charité que le riche fait au pauvre, c'est une charité. Mais puisqu'il est riche, c'est un devoir de charité. Voilà. Tandis que chesed, même un pauvre peut faire chesed à quelqu'un de plus riche que lui. On peut faire chesed par une parole gentille, par un sourire, par un regard, par une attitude. Ça, c'est chesed. Tzedaka, c'est je donne alors que je pourrais ne pas donner, mais finalement, bien que ce que je donne, c'est un don, eh bien, je fais très bien de donner. Ça me justifie d'être plus riche que l'autre. C'est une tzedaka qui est un chesed qui n'est que justice de faire chesed. Alors, ce sens-là n'existe pas dans les mots français. Hein ? Quand vous traduisez tzedaka par charité, c'est exact, mais ça veut dire une charité qui est justice. Tandis que chesed, charité, c'est une charité gratuite. Est-ce que c'est clair ? Bon, vous habituerez à vocabulaire hébreu. C'est encore pas si simple que ça, j'ai simplifié. Mais quand vous habituerez, vous comprendrez les nuances de tous ces termes. Chen, chesed, tzedaka, rachamim. Tout cela, il faut s'habituer. Mais pour le moment, je mets des repères pour notre étude. Alors voilà quel est le problème. Nous allons d'abord lire la manière dont Rashi va nous faire lire le verset, c'est-à-dire répondre à la question qui est le sujet du deuxième verbe, Vayachevea. Qui a imputé en tzedaka à qui ? Est-ce que c'est Abraham qui impute en tzedaka à Dieu ? Ou est-ce que c'est Dieu qui impute en tzedaka à Abraham le fait qu'Abraham croit ? C'est clair ? J'espère que c'est comme ça, la manière la plus directe, que vous avez commencé à déchiffrer ce texte. Hein ? Vous avez bien ça en tête. Ne vous embrouillez pas dans la controverse qui va suivre. Alors, je lis Rashi. D'ailleurs, je lis depuis le commencement, bien que ça ne concerne pas notre sujet, parce que ça concernait, Dafka, la question qui m'a été posée hier, par ici, je crois que c'est toi, Ken, sur le Bamé Edar. C'est toi ? Non, c'est toi. Ken. C'est pas toi qui m'as posé une question sur le verset 8 ? Non, c'est bien ça, oui. C'est une autre personne. Mais c'est bien. Donc, vous vous ressemblez. La voix. Et alors, je dis. Lorsque le verset dit « Et Abraham crut, eut confiance », ça semble être en contradiction avec un verset qui dit que Abraham a demandé un signe lorsque Dieu a fait une promesse. Vous vous rappelez la question ? On en a parlé hier, Ken. Je vais vous dire d'ailleurs le numéro du verset. C'est toujours dans le chapitre 15. Verset 8, hein. 8 ou 9.
D'après notre texte, c'est verset
8. Verset 8, d'accord. Vayomer, Adonai Elohim, Bame Edar Yirashena. Et il dit, c'est Abraham qui parle, Seigneur Dieu, en quoi saurais-je, qui Yirashena, que j'en hériterai. Là, il s'agit de la promesse de la terre. D'accord ? Quand Dieu lui promet, la deuxième promesse dont je vous ai parlé, quand Dieu lui promet la possession de la terre de Canaan, alors Abraham demande un signe. Et le Midrash explique, je schématise un peu le Midrash explique, c'est pas que Abraham doute de la promesse que Dieu lui fait de la terre, mais il n'est pas sûr que sa descendance la méritera. Est-ce que c'est clair ? Tirachena, que j'en éviterai, ça veut dire définitivement, à travers ma descendance. C'est le grand drame des pères. À la rigueur, ils peuvent être sûrs d'eux-mêmes, mais ils ne sont pas sûrs de leur descendance. Il y a un doute. Parce que ça dépend de la mère. Bon, c'est un autre sujet que vous reprendrez peut-être une autre fois. D'ailleurs, je crois que l'histoire d'Abraham est très exemplaire. Abraham a un avenir très différent si la mère de son fils, c'est Agar ou Sarah. Vous comprenez ? D'ailleurs, le père de Ishmaël, c'est une façon de parler, de dire que c'est Abraham. D'abord parce que c'est Abraham, vous vous rappelez de cela ? Ce n'est que lorsqu'Ishmaël fera tchouva qu'on l'appellera fils d'Abraham, mais ce n'est pas encore le temps. Tout est prêt, mais on l'attend. Okay ? Vous savez que c'est la mode de faire tchouva, alors on attend Ishmaël. Et puis, non, c'est écrit, il fera tout. Hein. Et alors, si vous voulez, je vous donnerai la référence. Alors, à quoi je pense, de quoi je parlais tout de suite ? Oui, en réalité, ce que je voulais dire, c'est que dans l'état des choses, le père d'Ismaël s'appelle Ibrahim. C'est quelqu'un d'autre. Okay ? Ce n'est que lorsque Ismaël fera tchouva qu'il s'appellera Abraham. C'est clair. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs que ça se réfère à Midrash que dans la Gemara, vous avez pas étudié, le représentant de l'OLP à Paris, comment il s'appelle ? Ibrahim Tsous. C'est quelque chose. Donc, un jour, quand vous saurez le verset, je vous expliquerai la Gemara là-dessus. Il y a des fois, il y a des clins d'œil comme ça. Le représentant de l'ambassade d'Israël s'appelle Abraham, mais celui-là, il s'appelle Ibrahim. Vous voyez comment ça marche. Bien. Alors voilà ce que explique Rashi. Dans notre verset 8, Bameedar Kirachena, en quoi saurais-je que j'en hériterai ? Abraham n'a pas douté de la promesse d'avoir un fils, mais sa portée sur l'héritage de la terre. C'est clair ? Et voilà ce que dit Rashi, suivez sur le texte. Lo sha'allo, il ne lui a pas demandé, ôte un signe. Alzot, sur cette promesse-là d'avoir un enfant, aval al Yerushat Haaret, mais sur l'héritage de la terre. Shalom, il lui a demandé, ôte un signe. Va Marlo, et il lui a dit, va Meeda, en quoi saurais-je ? Vous voyez qu'il y a là, dans l'intuition d'Abraham, une espèce de préscience qu'il y aura une difficulté dans l'héritage de la terre pour sa descendance. Je répète, pour que ce soit bien clair, dès l'origine du récit, on s'aperçoit, ça c'est une expression du Maharal, qu'à la source de notre identité, dans le shoresh, à la racine de notre identité, il y a le début des problèmes que nous avons à résoudre. Vous voyez, il y a un mystère dans l'histoire universelle, dans la relation entre un peuple et sa terre, je vous ai dit hier, je dis un peu différemment, la culture générale du monde entier est obligée d'admettre en bonne foi qu'il y a une seule terre et un seul peuple dont on sait comment est le lien entre eux, c'est Israël et sa terre. Et c'est le seul qu'on conteste. Tous les autres, je me souviens, quand les discussions avec l'OLP, disons, quand la notion de Palestinien a commencé à apparaître pour désigner les Arabes, c'est très récent, c'est après la guerre des Six Jours. Jusque-là, Palestinien, ça voulait dire les Juifs. Et puis, les Arabes se sont inventés une identité palestinienne qui serait arabe. Vous apprendrez d'ailleurs, d'autre part, d'où vient l'origine du mot Palestine. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais la Palestine, c'est le terme que les Romains ont donné à la Judée lorsqu'ils ont détruit la Judée et ils ont pris le terme de la Philistée, des Philistins. Et c'est ce terme que les Anglais ont repris au moment du mandat pour désigner Eretz Israël. Mais ça s'appelait la Judée. D'ailleurs, même maintenant, on appelle cette région contestée par les Arabes, on l'appelle la Judée. Alors imaginez l'invraisemblance géopolitique. Qu'est-ce que les Juifs vont faire en Judée ? C'est comme si on demandait qu'est-ce que les Français font en France. Je ne sais pas si vous réalisez. Et en plus, ce sont les Arabes eux-mêmes qui appellent la Judée, Judée. Et Jérusalem, Yerushalayim. Bon, ils le prononcent à l'arabe, mais ils savent que c'est un mot hébreu. Il n'y a que les Juifs qui ont des doutes. Et certains ont des moitiés de doutes. Ça s'appelle Hassidout. Mais c'est encore plus grave. Mais ce que le Maharal explique, c'est que c'est très frappant de voir qu'à la racine de notre histoire, Abraham a l'intuition qu'il va y avoir un problème. Pas tellement dans la qu'Abraham est une descendance, finalement, ça c'est à travers le temps, c'est irréversible. Le monde entier a beau essayer de détruire le peuple d'Israël, en tant que descendance centrale d'Abraham, il existe. Seulement, le monde entier, Saint-Génie, a coupé le peuple d'Israël de la terre d'Abraham. Vous voyez qu'à la racine, il y a déjà cette intuition. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois. Les grands commentateurs de Rashi ont toujours indiqué, ça se vérifie maintenant, que Rashi a un commentaire, si j'ose dire, prophétique. C'est-à-dire, il choisit dans les différents midrashim pour commenter le texte, ce qui est important pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Si vous avez étudié le premier rashi de la Torah, est-ce que vous avez étudié le premier rashi de la Torah ? Hein? Vous remarquez à quel point Rashi a choisi parmi l'ensemble des midrashim celui qui était important de comprendre au moment du retour en Eretz Israël. Et c'est aussi le cas ici. C'est un problème permanent. Le Maharal a très bien expliqué ce thème-là, qu'il y a un, je cherche le mot en français, il y a un problème dans la relation entre Israël et sa terre. Et ce problème a deux dimensions. Les goïms réclament cette terre comme étant leur terre sainte, et les juifs ne sont pas tellement sûrs que ça leur appartient. La preuve, c'est qu'ils préfèrent d'autres terres. Ils préfèrent habiter partout ailleurs sur la terre. Et puis, Eretz Israël, eh bien, on verra bien un jour, l'année prochaine. Vous voyez à peu près comment ça marche. Si j'insiste, c'est pour vous montrer l'invraisemblance, le caractère invraisemblable de ce problème. On est tellement habitué qu'on croit que ça va de soi. Je vous garantis que lorsque les sociologues, les historiens, goyim, étudient cette question, ils sont perplexes. Je cherche un mot, ils sont stupéfaits. Qu'est-ce que c'est que ce peuple ? Ça fait 2000 ans qu'il supplie d'avoir sa terre, il peut l'avoir, il s'occupe d'autre chose. Vous avez remarqué ça ? Bon, réfléchissez. Il y a un problème là, il faut arriver, je ne voudrais pas vous en parler tout de suite, je voudrais que ça mijote un peu dans votre tête, arriver à comprendre comment s'expliquer une chose pareille. Est-ce que le peuple juif est un peuple anormal ? Et c'est pas la réponse. Hein. Est-ce que le peuple juif est un peuple, traître à sa propre identité ? C'est pas la réponse. Le peuple juif a donné dans son histoire toutes les preuves d'héroïsme, de fidélité. Et pourtant, il y a un mystère. Comment se fait-il que sur l'essentiel, il y ait un tel point d'interrogation ? Je vais raconter une histoire qui m'est arrivée. Vous remarquez, je raconte beaucoup d'histoires pour vous illustrer l'histoire. Il y a quelques temps, il y a quand même une quinzaine d'années, j'ai eu à donner à Jérusalem une conférence aux Dames de la Vizzo de France. Vous savez que c'est la Vizzo. C'est une association en principe sioniste. En principe, vous allez comprendre par cette histoire. Enfin, ce sont des dames très avisées, mais malgré tout, et vous allez voir à quel point il y a une inconséquence chez les juifs. Alors, à la fin de la conférence, il y a une des présidentes qui s'approche de moi et qui me dit « Monsieur le rabbin, j'ai un service à vous demander. » J'ai dit « Bon, si je peux, pourquoi pas ?» Elle me dit, voilà, mon fils vous connaît, et vous pouvez avoir l'influence sur lui, mais je vous en prie, parlez-lui, parce qu'il veut faire ça à dire. Empêchez-le. Non, mais juste elle, une présidente de la Vito. Alors je la regarde, je dis, et pourquoi vous me demandez ça? Elle me dit, mais monsieur le rabbin, il y a la guerre. Alors je lui réponds, pour vos enfants, il y a la guerre, et pour nos enfants, il n'y a pas la guerre. Alors ça s'est arrangé. Le gosse a fait ça à l'IA, il est devenu officier de l'armée israélienne, c'est très bien. Mais pour vous dire à quel point, c'est étonnant. La dame a compris tout de suite que c'était scandaleux ce qu'elle me demandait, en me disant, il y a la guerre. Pour son fils, il y a la guerre. Et pour le mien, il n'y a pas la guerre. Et elle vient ici en touriste, à Jérusalem, présidente de la Vito. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais est-ce que ça veut dire que les Juifs sont devenus, quoi, anormaux? Donc, il faut chercher une explication beaucoup plus profonde. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, pour parler de cela, tout le monde sait qu'en France, même un militaire, c'est un civil. Alors qu'en Israël, même un civil, c'est un militaire. Mais tout le monde sait ça. Alors, si on ne fait pas ça à l'IA, c'est qu'il y a d'autres raisons. Est-ce que c'est clair, ce que je dis là? Parce que, je me souviens, vous n'avez pas connu le temps des Juifs qui étaient fiers d'avoir fait la guerre de 14-18. Alors, pour faire la guerre de 14-18, les Juifs étaient prêts. Mais quand il y a la guerre ici, ils viennent en service pour apporter des couvertures ou arracher des tomates. Et en plus, ils mobilisent des soldats pour s'occuper d'eux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte avec moi. Et ils sont fiers. Vous voyez à quoi je fais allusion. Alors, quand les goïms parlent de ça, ils n'osent pas. Parce qu'ils craignent qu'on les traite d'antisémites. Mais il faut quand même découvrir qu'il y a un problème. Alors, c'est important de voir que les maîtres d'Israël ont décelé ce problème à la racine. Déjà au temps d'Abraham, cette problématique apparaît. Il va y avoir des difficultés. Et pourquoi? Alors réfléchissez bien à ça. Comment s'expliquer ça? Comment s'expliquer ça de telle sorte de préserver l'honneur du peuple juif? Parce que des explications négatives, c'est pas difficile. Dire par exemple, pourquoi les juifs font pas leur alia? Parce que en Israël, il n'y a pas les allocations familiales. Je ne vois pas le rapport, mais enfin, c'est l'argument habituel. Je me souviens, d'ailleurs, il y a un peu quand même, mais je me souviens qu'un jour, j'étais dans une petite ville de la banlieue parisienne pour faire une sikha, mais il y a très longtemps, c'était en Anglien. Ça vous dit quelque chose, ça? Bon. Alors, ça se passait dans la synagogue, et à la fin, un brave juif qui avait écouté la sikha me dit: mais monsieur le rabbin, est-ce que chez vous il y a le tiercé? Je dis, s'il n'y a pas le tiercé, tu viens pas. Alors, regardez où on en arrive. À la synagogue. 2000 ans après. Bon. S'il y a des écrivains, parmi vous, vous pourrez faire une pièce pour pourri. Le tiercé à Anguin. Bon, alors voilà la première. Alors maintenant, on lit la suite de Rashi. Vayachshev Elohim Daka. Voilà comment dit Rashi. Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, Hashva, qui a compté, imputé, les Abraham à Abraham, l'Isrut Belis Daka, en mérite et en justification. C'est clair? Alors, regardez bien le mot que Rashi a ajouté sur le verset, l'Isrut. Ça veut dire que selon Rashi, c'est la foi qui donne le mérite. Notez bien ça, première donnée. Al et Aimuna chez Emin Bo. Sur la foi qu'il a eue en lui. Voilà donc la thèse de Rashi que va discuter Nahmani. Et on va se demander pourquoi. Mais je répète la thèse de Rashi. Abraham a eu foi et Dieu à considérer que cette foi, c'est un mérite. Bon. Alors maintenant, nous allons lire. C'est clair jusque-là, hein, par cœur. Maintenant, nous allons lire Nahmani. Alors, vous l'avez dans ce deuxième paragraphe. Suivez bien. Narmanim cite d'abord le Ramban, cite d'abord le verset Ve'emin Mashiva lo Tzaka, et il dit Pirash Rashi. Rashi a expliqué Akadosh Baruch Hu Hashablo Tzaka Usrut, que Dieu lui a imputé, sous-entendu, la foi qu'il a eue en justification et mérite. Narmanim a inversé les termes de Rashi. Ala Emuna She'emin Bo, sur la foi qu'il a eue en lui. Mais le fait que les termes aient été inversés, c'est pas grave. Au contraire, la manière dont Narmanim cite Rashi est plus exacte que les textes que nous avons de Rashi. C'est-à-dire, c'est plus vraisemblable que Rashi a dit Tzaka ou Srout et non pas Srout ou Tzaka. Mais c'est un autre problème. Et il continue, Narmanim continue. Veni Mevin, et je ne comprends pas. Alors, quand un grand rab dit d'un autre grand rab qu'il ne comprend pas, il faut chercher à comprendre. Je ne sais pas si c'est clair celui-là. C'est-à-dire, ce n'est pas des enfants de Talmud Torah qui sont en train d'échanger des hypothèses. D'autant plus que Rashi vient avant Rambam, et nous avons un grand principe, c'est que les premiers sont les premiers et les derniers sont les derniers. Enfin, je m'explique. Jamais quelqu'un d'une génération suivante ne peut s'opposer à un enseignement d'un maître d'une génération précédente. Il doit expliquer qu'en son temps, les choses doivent être différentes pour telle et telle raison, et donc, en son temps, on ne peut pas suivre l'opinion précédente, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'autre qui a raison. Je vais rester clair ce que je dis. Okay, parce que, encore une fois, Rashi et Narmanim, ce n'est pas des petits étudiants d'université. Okay, c'est des grands maîtres d'Israël. Et ils connaissent les principes de la tradition. Par conséquent, on va être étonné de ce que Narmanim, risque qu'on croit en le lisant, qui va dire Rashi s'est trompé. Vous avez compris? Méfiez-vous. Vous avez là un premier exemple, peut-être, d'une controverse entre les rabbinim, ne croyez pas que ça veut dire que l'un a dit de l'autre que ce que l'autre a dit est faux. Okay, c'est tout à fait autre chose. Je dis, fais attention, toi maintenant, ne lis pas comme il a lu lui. Lis comme moi je te fais lire. Mais ça ne veut pas du tout dire que c'est pas l'autre qui a raison. Vous avez compris un peu? Donc, alors vous allez le voir d'ailleurs dans l'étude. Veni mevin maasrutaze. Et Narmanim dit, et moi je ne comprends pas, qu'est-ce que ça peut être ce mérite? Le mérite de croire quand Dieu promet. Surtout pour Abraham, qui est prophète, et qui sait très bien que c'est Dieu qui lui parle. Nous avons un peu parlé de ça hier. Mais c'est clair la question de Narmanim. Hein, je continue. Lama lo yaamin, pourquoi il ne croirait pas, Beloke Oman, dans le Dieu objet de foi? Vehu un avi, Beatmo, alors qu'il est lui-même prophète. Veloïs, El, Veichazel, et Dieu n'est pas un homme qui mentirait. Umish et Emin, Dishrot et Beno, et celui qui a cru jusqu'à sacrifier son fils, Ayachid, unique, Ahouv, aimé, Vesher Anisionot, et toutes les autres épreuves qu'Abraham a traversées, Ech lo yamin, Bipsura Torah. Comment il ne croirait pas dans une bonne nouvelle? C'est-à-dire, qui est Abraham? Abraham, c'est le croyant par excellence, c'est le confiant par excellence. Et tu viens me dire, toi, Rashi, qu'il a eu un mérite de croire? Qu'est-ce qui se passe? Vous suivez? Vernachon Be'enai, et ce qui est exact à mes yeux, dit Narmanim, et je reviens, c'est moi qui ajoute ça, mais vous comprenez mieux. Ce qui est exact à mes yeux, qu'il faut lire maintenant dans le verset, qui y a mer, c'est que il y a à dire à propos de ce verset, chez Emin Bachem, que Abraham a eu foi en Dieu, Vechashav, et Abraham a imputé, a pensé, qui betzit koch la kazobor, que par charité de Dieu, iten lozera al kopanim, Dieu lui donnera une descendance dans tous les cas. Pas qu'il le mérite cette descendance, que Dieu lui a fait une charité en lui promettant une descendance. Alors là, ce que ça veut dire. Et Abraham a cru la promesse que Dieu lui a faite, et il a compris que c'est gratuitement, sans que lui ne le mérite, que Dieu. Pourquoi il a cru ? Parce qu'il a compris que ça ne tient pas à son mérite. Alors il peut croire. Parce que si ça tenait à son mérite, il aurait un doute. Est-ce que je mérite ? Vous vous rappelez la question hier ? Quelqu'un qui était là-bas, il n'est pas là aujourd'hui. D'ailleurs, je voudrais vous dire, essayez en général de ne pas changer de place. Parce que, étant donné qu'on se voit peu souvent, je ne sais même pas comment vous appeler, je me rappelle les questions de là où elles viennent. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas si c'est là hier, mais... Par exemple, toi, tu ne sais pas là-bas. Et alors, je crois que votre collègue ne sait pas là aujourd'hui, vous lui raconterez. Vous voyez ce que dit Nahmanid, hein ? Si Abraham pensait qu'il fallait qu'il mérite d'avoir un fils, eh bien, il ne pourrait pas croire qu'il en aurait un. Parce que, comme j'ai expliqué hier, il se connaissait comme, quel est le mot en hébreu ? Ariru. C'est-à-dire sans héritier. Et fin d'histoire, fin de série, si je dois dire. Un peu, imaginez l'état de la société, de la communauté juive de France à la fin du 19e siècle. L'assimilation absolue. Les juifs se prenant pour des Français. Et au point que, et avec un patriotisme qui laisse les Français béats, on leur donne des leçons de patriotisme. Alors qu'ils s'inscrivent au Front National. Mais...